tout le monde. Je vais commencer la présentation pendant que les derniers arrivants s'installent. Donc on a l'honneur ce soir d'accueillir Didier Fassin, anthropologue et sociologue de renommée internationale. Vous êtes professeur à l'Institute for Advanced Study de Princeton depuis 2009 et directeur d'études à l'EHSS depuis les années 90. Vous naviguez donc entre les États-Unis et la France pour mener vos différentes activités de chercheur. Vous avez soutenu une thèse en 1988 sur la relation entre thérapeute et malade dans la banlieue de Dakar, sous la direction de Georges Balandier. Thèse qui s'inscrivait à la fois dans la continuité de votre ancienne vie de médecin praticien et en même temps vous amenait à repositionner le domaine de la santé dans un contexte plus large lié à l'urbanisation et aux inégalités économiques et sociales. Avec Alban Bensa, que nous avons reçu au Bistro des Ethnologues en 2016, autour de son ouvrage « Les sanglots de l'aigle pêcheur », vous avez fondé l'IRIS en 2007, un institut de recherche pluridisciplinaire qui traite notamment de questions politiques et morales et développe des travaux aux quatre coins du globe. À partir de 2008, vous avez mené une vaste étude ethnographique sur l'action de l'État et l'articulation des aspects moraux et politiques dans l'arsenal répressif qu'il déploie, notamment dans le milieu carcéral. Vous avez enquêté avant de publier en 2015 « L'ombre du monde » aux éditions du Seuil, puis « Punir, une passion contemporaine » en 2017. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages traduits en 7 langues et vous avez dirigé une vingtaine d'ouvrages collectifs portant sur les questions d'inégalité de santé, sur les économies morales, les notions de violence et de châtiment, et plus largement sur les politiques de la vie. Vous avez été en 2018 le premier chercheur en sciences sociales à se voir décerner le prix Nomis du Distinguished Scientist, qui récompense les approches interdisciplinaires dans le domaine scientifique. Ce prix est voué à la mise en œuvre du projet Crisis, a Global Inquiry in the Contemporary Moment, portant sur l'analyse de l'omniprésence de la notion de crise sociale, économique, politique, morale et cognitive dans notre monde contemporain. Votre dernier ouvrage, La vie, mode d'emploi critique, paru au Seuil en 2018, est donc une forme de synthèse de vos différents travaux et de l'ensemble des questionnements qu'ils ont pu susciter sur le statut accordé aux vies humaines. Mais il permet aussi de s'interroger sur le rôle que l'anthropologie attribue à la morale et sur les possibilités ou les limites de notre discipline à interroger la dimension morale, tant elle est entremêlée dans l'ensemble des activités humaines. Cette question morale est spontanément étayée par des chiffres, comme celui des 2260 migrants morts en Méditerranée en 2018, ou par des aspects utilitaristes, venant des biotechnologies ou du transhumanisme, qui semblent masquer une difficulté à aborder frontalement la question de la responsabilité d'humains dans le destin ou le devenir d'autres humains, qu'ils soient voués à être disqualifiés ou au contraire augmentés. En tout cas, le contexte des Gilets jaunes met en exergue le fait que cette question du gouvernement des vies peut encore et toujours mobiliser des corps sociaux, aussi hétéroclites qu'ils soient, sur le plan politique et sans doute moral. Je vous remercie infiniment, Didier Fassin, d'avoir accepté notre invitation à venir présenter votre ouvrage au Bistro des Ethnologues, et je vous laisse la parole pour présenter La vie, mode d'emploi critique.
Merci bien, Gaëla. Je remercie également le Bistro des Ethnologues et le Centre La Fenêtre pour accueillir cette soirée. J'ai appris tout à l'heure que le Bistro des Ethnologues avait 25 ans d'âge, donc c'est une prouesse vraiment remarquable de tenir sur la durée une activité dans ce domaine. Et puis je voudrais dire aussi que je suis très heureux en étant à Montpellier de retrouver des amis que je n'avais pas vus depuis un certain temps. Alors ce dont je vais vous parler, puisque on m'a demandé d'évoquer plutôt le dernier livre que j'ai publié, donc La vie, mode d'emploi critique, est un peu inhabituel peut-être pour celles et ceux d'entre vous qui soit sont ethnologues, soit s'intéressent à l'ethnologie. Et si je pense par exemple à la recherche et à l'ouvrage auquel vous faisiez référence tout à l'heure de mon ami Alban Bensa, eh bien ce que je vais présenter est vraiment très, très différent dans la démarche. J'ai moi-même fait un certain nombre de travaux ethnographiques en Afrique du Sud et puis plus récemment en France, notamment sur la police et la prison. Mais c'est pas d'une ethnographie dont je vais vous parler, mais peut-être de quelque chose qu'on pourrait appeler une anthropologie. Et je voudrais d'abord en rappeler les circonstances. J'ai été sollicité il y a 3 ans à peu près par Axel Honneth, qui était le jusqu'à il y a 2 jours, il y a 8 jours, le directeur de l'Institut de recherche sociale de Francfort, c'est-à-dire l'héritier de l'école de critique de Francfort, et qui m'a invité à donner, il y a 2 ans, les conférences Adorno. Ce sont des conférences qui habituellement sont données par des philosophes, qui n'avaient en tout cas jamais été données par un anthropologue. Je me suis demandé quel sujet je pouvais traiter, qui pouvait intéresser un public varié, mais avec une forte composante théorique. Et évidemment, il n'était pas question pour moi d'inventer quelque chose sur lequel je n'aurais jamais travaillé. Et il m'a semblé qu'un fil conducteur de mes travaux, il y en a toujours plusieurs, mais un des fils conducteurs, en tout cas, c'était la question de la vie. Alors, il y a évidemment une explication facile à ce fil conducteur qui reviendrait à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait que j'ai été et que je suis toujours médecin et donc intéressé à la vie physique. Et puis que devenu anthropologue, je me suis intéressé à des récits de vie. Et donc on voit bien qu'il y a là deux dimensions. En réalité, je crois que la quête dans laquelle je me suis engagé depuis longtemps est plus complexe. Avec ce que j'ai essayé de ramasser dans ce livre et dans ces conférences d'abord, comme une double enquête. D'abord une enquête théorique que j'ai essayé de cristalliser autour de formes de vie, éthique de la vie et politique de la vie, et enquête empirique, et j'ai choisi de concentrer les exemples et les cas que j'ai étudiés autour de mes travaux sur l'Afrique du Sud et sur la France. Et au fond, il s'est agi pour moi de donner, ce qui est toujours un exercice à la fois un peu artificiel, mais en même temps très utile, de donner une cohérence à des travaux que j'avais conduits depuis plus de deux décennies. Alors le point de départ, je dirais, c'est cette question à la fois banale et en même temps très difficile. Qu'est-ce que la vie? Et on voit que pour le sens commun, si on demande aux gens qu'est-ce que la vie, on a affaire à au fond, une notion qui est relativement simple et compréhensible. Mais pour le philosophe, on a une réalité qui est extrêmement polysémique. Et on voit bien, pour n'en donner que 2 exemples, que la vie telle que l'étudie le généticien, pour qui elle est une information codée dans des gènes et dans l'ADN, et pour le romancier, pour lequel la vie est d'abord une narration qu'il ou elle va développer dans des histoires, eh bien on voit que simplement en prenant ces 2 exemples presque extrêmes, on a une polysémie qui rend immédiatement difficile de saisir de quoi l'on parle lorsque l'on parle de la vie. Et justement, je pense qu'on peut partir, à travers ces 2 exemples que je viens d'évoquer, on peut partir de ce qu'en disait Hannah Arendt dans The Human Condition, qui a été malheureusement traduit en français comme La condition de l'homme moderne, alors que c'est La condition humaine, qui est un titre d'André Malraux, évidemment. Et donc, on peut partir de ce qu'elle dit, justement, au début de The Human Condition, qui est la vie, dans sa plus grande généralité, c'est ce qui se déroule entre la naissance et la mort. C'est l'ensemble des phénomènes qui se déroulent entre la naissance et la mort. Mais, ajoute-t-elle, ce qui fait la dimension spécifiquement humaine de la vie, c'est qu'elle est composée d'événements qui peuvent être racontés. Et il me semble qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant pour penser à la fois la généralité des phénomènes de la vie et en même temps la singularité possible de la vie humaine. Et on peut appeler la première la vie biologique et la seconde la vie biographique. Et donc cette question de la vie biologique et de la vie biographique, eh bien, elle a été au cœur pendant plus de 2 millénaires au cœur des travaux philosophiques, d'Aristote à Hegel en passant par Descartes et Kant. Et au fond, on a dans ces travaux philosophiques qui relèvent de théories extrêmement différentes, théories vitalistes, théories mécanicistes, théories organicistes, au-delà de ces différences, il y a un projet commun qui est de faire tenir ensemble vie biologique et vie biographique, c'est-à-dire le vivant et le vécu, en quelque sorte, pour reprendre l'expression de Georges Canguilhem. Mais depuis un peu plus d'un siècle, il me semble que les deux dimensions se sont éloignées. Et se sont éloignées de manière presque inéluctable, avec d'un côté des disciplines scientifiques, la biologie bien sûr, mais également les sciences physiques, l'astronomie en particulier, qui se sont donc, ces disciplines biologiques, qui se sont intéressées d'une part à la vie dans ce qu'elle avait de plus réduit, à savoir des molécules, et toute la question est de savoir quelles sont les molécules qui définissent la vie. Et donc on a une molécularisation de la vie qui se manifeste à travers des enjeux qui sont ceux d'une double extension aujourd'hui, qui sont d'une part une extension dans le temps et d'autre part une extension dans l'espace. Extension dans le temps, il s'agit de répondre à la question: quelle est l'origine de la vie? Quelles sont les origines de la vie? Et quelles sont les origines de la vie? C'est pas des histoires de petits animaux ou de paramécies ou de... C'est des histoires de molécules. Et la grande quête aujourd'hui dans ces travaux qui remontent dans le temps, c'est de retrouver quel est le dernier ancêtre commun universel. Quelles sont les molécules et quel est l'environnement dans lequel elles ont pu se développer qui a donné le début de quelque chose qui ensuite donnera des cellules, donnera des plantes, des animaux, etc. Donc donnera la vie. Et puis, j'ai dit extension dans le temps, mais également extension dans l'espace. Et une des grandes questions, et celle-ci est plus médiatisée que la précédente, c'est existe-t-il de la vie sur d'autres lieux de l'univers, sur d'autres planètes dans l'univers. Et donc la question là est de trouver des biosignatures gazeuses qui permettraient d'identifier que peut-être dans un autre système solaire, eh bien, on aurait une planète dans laquelle on trouverait des signes de vie. Et ce sont là deux grands axes de la recherche aujourd'hui, les origines de la vie et l'existence d'une vie en dehors de la planète Terre, et vous le savez bien. Et donc on voit qu'il y a eu à la fois cette réduction dans une molécularisation et cette extension dans le temps et l'espace, mais on est dans quelque chose de bien différent de s'imaginer s'il y a des petits martiens sur une autre planète ou des équivalents. Donc ça du côté biologique, mais du côté biographique, on a peut-être plus familier pour beaucoup d'entre nous, le roman qui naît probablement, disons, plutôt au XVIIIe siècle, mais qui va prendre son essor au XIXe, avec aussi bien des romans de mœurs comme ceux de Jane Austen, des romans d'apprentissage comme ceux de Goethe, ou des grandes fresques romanesques comme celles de Balzac, de Zola, et avec ce point culminant, me semble-t-il, qui est à la recherche du temps perdu, et donc ce moment où, comme le dit à la fin du dernier volume Marcel Proust, eh bien, la littérature, c'est la vie. Donc, on voit comment, le dernier chapitre, en fait, est le commencement de l'écriture. Le dernier chapitre de 3000 pages. Mais immédiatement après, on a, ou presque en même temps, on a une dislocation qui d'ailleurs était en quelque sorte annoncée par Proust, une dislocation de cette forme biographique romanesque qui se voit à travers Ulysses de James Joyce ou bien la trilogie Molloy, Malone meurt, etc. De Beckett. En parallèle, on a les sciences humaines, plus récentes bien sûr, qui s'intéressent de plus en plus à des récits de vie, qui essaient de reconstituer, et on peut penser, reconstituer des trajectoires de vie, et on peut penser bien sûr au livre sur le paysan polonais de Thomas et Zianicki. On peut penser à la famille mexicaine étudiée par Oscar Lewis, mais on peut penser pratiquement à toute la collection de Terre humaine qui s'est constituée autour de ces récits de vie. Et puis même d'ailleurs dans cette collection, on voit que le récit de vie devient non seulement un exercice sur les autres, mais un exercice sur soi-même. Triste tropique de Claude Lévi-Strauss, Afrique ambiguë de Georges Balandier, ou bien Les lances du crépuscule de Philippe Descola sont à la fois un regard sur l'autre mais une histoire de soi. Donc on voit comment les sciences humaines se développent, et en même temps là encore une critique émerge, une critique qui vient de différents fronts, que ce soit la critique de writing culture par exemple aux États-Unis, ou que ce soit la critique de Pierre Bourdieu sur l'illusion biographique. Donc on a au fond deux voies qui se sont développées de façon extrêmement prolifique, mais qui se sont développées en parallèle, et on voit bien qu'entre Triste Tropique et la recherche de biosignatures gazeuses, eh bien, il n'y a plus beaucoup de discussions possibles autour de la vie. Alors, c'est cette rupture entre vie biologique et vie biographique qui me semble devoir être constatée dans un premier temps, mais peut-être également interrogée, et je crois que nous pouvons nous poser la question, en tout cas c'est celle que j'ai essayé de me poser: est-ce qu'il était possible de, non pas évidemment en partant de ces deux extrêmes, mais de réconcilier quelque chose comme une vie biologique et une vie biographique? Et le projet donc était d'essayer de les repenser ensemble, et de les repenser ensemble à travers trois concepts: forme de vie, éthique de vie et politique de la vie, et à travers deux terrains principaux. J'ai écarté d'autres sur lesquels j'avais travaillé, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et la France. Et dans le livre, et parce que ça correspond aussi à des recherches que j'ai plus particulièrement menées, je m'intéresse plus spécifiquement à la figure de ce qu'on pourrait appeler l'exilé forcé. Alors, illustrons-le à travers, donc je vais passer en revue rapidement ces trois concepts et les illustrer, donner quelques éléments de réflexion. Le premier, donc, forme de vie, que j'ai essayé sur lequel j'ai essayé de réfléchir à partir d'une double enquête menée d'une part à Calais, dans ce qu'on a appelé la jungle, et d'autre part à Johannesburg, dans ce qu'on appelait les dark buildings, c'est-à-dire des bâtiments qui avaient été autrefois occupés dans le centre de Johannesburg par des banques, des grands centres financiers, et qui avaient été abandonnés et qui était aujourd'hui occupé principalement par des personnes qui étaient soit demandeuses d'asile, soit en situation irrégulière pour la très grande majorité, qui étaient en tout cas des étrangers. Alors, bien entendu, le parallèle que j'ai essayé de faire entre des jeunes hommes syriens dans la jungle de Calais et des jeunes femmes zimbabwéennes dans les dark buildings de Johannesburg peut paraître peut-être inattendu, et Et à vrai dire, il y a bien des différences entre les deux. Dans le cas de Calais, on parle plutôt de réfugiés et de migrants. Dans le cas de Johannesburg, on parle de demandeurs ou demandeuses d'asile et d'étrangers ou d'étrangères en situation irrégulière. Mais au fond, ce qui m'intéressait, c'était de procéder à une forme de décentrement par rapport à la manière dont nous pensons, en France par exemple, et en Europe en général, les questions d'asile, d'exil forcé. À travers ce qu'on a appelé par exemple la crise des migrants ou la crise des réfugiés à partir de 2014, eh bien, ce qui m'intéressait, c'était de faire ce que Dipesh Chakraborty désigne comme provincialiser l'Europe. Et en effet, je me suis rendu compte, ce que je ne savais pas avant de m'engager sur le terrain sud-africain, que pendant l'année 2015, qui était l'acmé de la crise dite des migrants ou des réfugiés, on comptait en Europe un peu moins d'un million de demandeurs d'asile. Or, l'Afrique du Sud seule dépassait le million de demandeurs d'asile. C'était le tiers de la population des demandeurs d'asile dans le monde. Or, personne n'avait entendu parler, je crois, de cette question dans ce pays, qui est un pays d'un peu plus de 50 millions d'habitants. Donc, en proportion, plus de 10 fois plus que la situation de l'Europe, sans compter les autres formes de migration, qui n'étaient pas des autres immigrés, qui n'étaient pas des demandeurs d'asile. Et donc, déjà, il me semblait intéressant de déplacer le regard et en même temps d'établir un parallèle entre ces deux situations qu'on n'a pas l'habitude de penser ensemble. Et du reste, j'ai trouvé et fait des photos dans les deux endroits où on pourrait, et je l'avais fait dans un petit article, on pourrait interchanger les photos et on dirait que c'est Calais ou Johannesburg et on retourne dans l'autre sens et on aurait les mêmes réponses dans les représentations que l'on peut avoir ainsi de les photographies qu'on peut faire de ces deux situations. Alors, je vais vous lire très simplement deux petits extraits, l'un qui parle de ces jeunes hommes syriens dans une cabane rudimentaire qui leur servait d'habitation provisoire. Et donc, je vous lis, les parois en étaient recouvertes à l'extérieur d'une toile de plastique bleue qui empêchait à peine la pluie de s'infiltrer, à l'intérieur d'une feuille d'aluminium qui laissait néanmoins un air froid pénétrer. Des 6 jeunes hommes qui avaient trouvé refuge dans cet espace d'environ 2 mètres sur 3, 4 étaient des étudiants, comme c'était d'ailleurs le cas d'un tiers des résidents du camp. Ils préparaient une licence d'économie lorsque la guerre civile avait éclaté. Originaires d'une région contrôlée par des groupes rebelles et régulièrement bombardés par l'aviation loyaliste, ils avaient quitté la Syrie lorsque les troupes du régime baathiste s'étaient rapprochées de leur ville afin d'éviter l'alternative entre la répression et la conscription. Leur périple à travers l'Europe en direction de la Grande-Bretagne avait été interrompu à Calais. Ils vivaient depuis 1 à 3 mois dans la jungle, ils ne parlaient pas français, et au regard de ce dont ils avaient eu l'expérience en France, ils n'étaient guère tentés d'y rester. Leur espoir était, comme pour tant d'autres, de rejoindre en Angleterre un parent ou un ami qui s'y était installé. Compte tenu de la présence de boue partout dans le camp, la cabane et les vêtements pendus à des clous plantés dans les parois s'avéraient étonnamment soignés, et au regard de la densité humaine de ce petit espace, son caractère ordonné était remarquable. Malgré leur extrême dénuement, les jeunes hommes s'excusèrent de ne pas être en mesure d'offrir du thé, et l'un d'eux sortit même chercher de la soupe distribuée gratuitement par une organisation humanitaire, mais revint les mains vides. Enveloppés dans leur sac de couchage, ils parlaient à voix basse, mais avec exaltation, paraissant avides de transmettre leurs inquiétudes et leurs espoirs. Ils expliquèrent qu'ils vivaient la nuit et dormaient le jour. Presque chaque soir, depuis leur arrivée dans le camp, ils avaient tenté en vain de traverser. À chaque fois, ils avaient eu affaire aux forces de l'ordre et à leurs unités canines. Ils avaient été souvent battus, parfois interpellés. En guise de preuve, deux d'entre eux exhibèrent des plaies et des cicatrices sur leurs jambes et leurs bras. Mais ce qu'ils voulaient surtout attester concernait leur vie antérieure. En Syrie. L'un après l'autre, ils me montraient les photographies qu'ils conservaient précieusement sur leur téléphone portable, en suivant toujours la même séquence, d'abord des images des parents, amis, compagnes, maisons, voitures, qui témoignaient de leur vie à l'évidence confortable avant le début du conflit, puis des images des massacres et des destructions, les corps d'un père, les corps morts d'un père, d'un frère, d'un jeune cousin, les amas de gravats qui avaient été leur quartier. Ils n'en appelaient pourtant pas à la compassion. Ces évocations d'un passé récent visaient plutôt, semblait-il, à souligner l'indignité de leur situation présente. Les photographies les représentant dans d'élégants costumes devant une demeure familiale cossue témoignaient d'un statut économique qui contrastait avec les conditions dans lesquelles ils vivaient désormais. Celles révélant les tragédies auxquelles ils avaient été confrontés rendaient la brutalité de leur traitement par les autorités françaises injustifiable. Jamais ils n'auraient pu imaginer, répétait-il, qu'ils puissent un jour se trouver au milieu de l'hiver à dormir à même le sol sur un terrain vague en étant quotidiennement harcelés par les forces de l'ordre d'un pays qu'ils croyaient accueillant. Puis, en parallèle, deuxième extrait, qui décrit une situation de femmes zimbabwéennes dans un de ces bâtiments donc abandonnés, dans laquelle elles sont en général soumises à des gangs qui ont des activités de prédation sur les résidents. Et donc là, on est au troisième étage d'un bâtiment du centre des affaires. Le vaste espace était segmenté en pièces d'environ 6 mètres carrés par des cloisons de carton et de contreplaqué dont la hauteur demeurait nettement inférieure à celle du plafond. Des fils électriques reliés à des connexions illégales formaient une toile dense au-dessus de ces appartements de fortune. Les sons des conversations et de la radio se mêlaient dans une rumeur indiscernable de voix et de musique. L'une des femmes que j'avais rencontrées, âgée d'une trentaine d'années, vivait avec son compagnon et leur enfant en bas âge dans l'un de ces compartiments sans commodité ni intimité, dont la fenêtre brisée laissait entrer un air vif. Il y avait là un lit, une table, une petite armoire, une plaque chauffante, une vieille télévision et deux seaux posés à l'envers sur le sol en guise de rudimentaires tabourets. Trois posters représentant la bande de Gaza, la religion Rastafari et une publicité pour un soda constituaient la seule décoration. L'endroit était aussi bien entretenu que le permettaient les circonstances. La jeune femme expliqua le contexte dans lequel elle avait quitté son pays. Membre du principal parti d'opposition, elle avait été agressée et violentée par des partisans du gouvernement et sa famille lui avait conseillé de partir. Par ailleurs, sans ressources, elle ne parvenait pas à subvenir aux besoins de ses deux premiers enfants, qu'elle avait donc confiés à ses parents avant de prendre la route. Au cours des trois premières années passées en Afrique du Sud, elle était sans titre de séjour. Un jour, les amis lui suggérèrent de déposer un dossier de demande d'asile, ce qu'elle fit. Et lorsque 6 mois plus tard, elle revint au centre d'accueil pour le renouvellement de son récépissé, on lui demanda une somme d'argent dont elle ne disposait pas. Elle était depuis lors à nouveau en situation irrégulière.